La chronique santé.
Et tout ce mois-ci, on parle de la sclérose en plaques avec le professeur Sandra Vukušić, neurologue, spécialiste de la sclérose en plaques, donc, et chef de service neurologique au sein des Hospices civils de Lyon. Professeur Vukušić, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est atteint de cette maladie de la sclérose en plaques? Est-ce qu'il y a un test pour savoir si on est atteint de cette maladie?
Alors d'abord, il faut avoir des symptômes neurologiques. Je vois beaucoup de gens en consultation qui viennent avec des taches à l'IRM et qui pensent que parce qu'ils ont des taches à l'IRM, ils ont une sclérose en plaques, mais ils n'ont pas de symptômes. Donc tant qu'on n'a pas de symptômes, on n'a pas de sclérose en plaques. À partir du moment où il y a des symptômes évocateurs, le patient va aller voir son médecin traitant qui va l'adresser à un neurologue, qui va la personne qui va expertiser la maladie. Et pour faire le diagnostic, il va falloir un certain nombre d'éléments parce qu'il n'y a pas de test. On ne peut pas faire une prise de sang ou une IRM et dire rien qu'avec ça, c'est bon, j'ai fait le diagnostic. Il y a des maladies qui ressemblent mais qui sont pas.
Ça rend donc la détection de cette maladie compliquée. On peut peut-être attendre plusieurs années avant de finalement avoir un diagnostic.
Et c'est ce qui fait la difficulté parfois, notamment dans des formes particulières de la maladie qui sont plus progressives. En fait, on va s'appuyer sur les signes cliniques que présente le patient et le fait qu'ils arrivent à des moments différents, que c'est pas quelque chose de continu dans la majorité des cas, ce qu'on appelle les poussées. On va se reposer sur ce qui nous permet de faire des photos du cerveau sans aller prendre un bout du cerveau pour l'analyser parce que c'est trop dangereux. Donc on va faire ce qu'on appelle une IRM, une imagerie par résonance magnétique. Aujourd'hui, c'est extrêmement précis, qui va nous montrer qu'il y a des taches, ces zones de démyélinisation dont on a parlé la dernière fois, au sein du cerveau. Mais ça ne suffit pas pour être certain, parce qu'on peut avoir des taches pour d'autres raisons, des accidents vasculaires cérébraux, des choses comme ça, de la migraine par exemple, du diabète. Et du coup, parfois, on est obligé de céder d'un autre examen qui s'appelle la ponction lombaire, qui va nous permettre d'analyser ce liquide dans lequel baigne le cerveau, qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien, et savoir s'il y a une inflammation, cette réaction auto-immune qui est à l'origine de la maladie, si on peut la détecter dans la ponction lombaire. Et c'est une fois qu'on va mettre tous ces éléments-là ensemble qu'on va pouvoir, avec plus ou moins de certitude, dire qu'il y a bien une sclérose en plaques ou qu'il n'y a pas de sclérose en plaques.
Il y a des maladies qui ressemblent.
Oui, il y a des maladies qui ressemblent, qui sont des maladies souvent des maladies générales du système immunitaire, mais qui vont toucher le cerveau et d'autres organes. Des maladies comme qui ont des noms compliqués, qui s'appellent le lupus, la sarcoïdose, des choses un peu comme ça. Et c'est pour ça que souvent le diagnostic est mis dans les mains d'un spécialiste qui a une surcompétence dans ces maladies-là, parce qu'il faut vraiment pas se tromper. Ça serait un drame de se tromper, de dire à quelqu'un qu'il a une sclérose en plaques alors qu'en fait c'est pas cette maladie-là qu'il a.
Alors, vous avez donné le mot tout à l'heure, on parle de poussée dans la maladie et de progression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe pour chacun de ces évolutions de la maladie?
Chez la majorité des patients qui sont atteints de la maladie, 85% des cas, la maladie va commencer par des poussées. Ces poussées, c'est en fait l'attaque du système immunitaire qui va détruire la myéline et qui va faire qu'en quelques jours, en général, ou en quelques semaines, va s'installer un déficit sensoriel ou moteur. Et puis ça va durer quelques semaines. Et puis notre système nerveux est capable de se refabriquer la gaine de myéline qui a été détruite par le système immunitaire. Et donc cette gaine se refabrique et les symptômes vont s'améliorer.
C'est ponctuel, on revient à l'état d'avant.
Et donc, du coup, en quelques semaines ou quelques mois, le patient va récupérer, souvent complètement, parfois en gardant des séquelles. Et ça, c'est ce qu'on appelle des poussées. Elles sont plus ou moins fréquentes en fonction des gens. C'est une tous les deux ans en moyenne. Et puis, il y a des patients qui vont avoir, dans un second temps, dans la majorité des cas, parfois dès le début de la maladie, une évolution qu'on appelle progressive. C'est-à-dire qu'en fait, elle est insidieuse. On voit petit à petit les symptômes s'installer. Et ces patients-là, en plus de l'inflammation et de la démyélinisation, ils ont souvent ce qu'on appelle une dégénérescence axonale. C'est-à-dire que les câbles, ils sont également touchés. En fait, ils vont s'autodétruire petit à petit. Et du coup, le courant électrique va finir par ne plus passer du tout parce que s'il n'y a pas le fil métallique pour faire passer, ça peut pas fonctionner.
Donc là, la progression, ça veut dire que ça rend la maladie de plus en plus grave et de plus en plus handicapante.
De plus en plus grave et souvent de plus en plus, en général, de plus en plus irrémédiable et handicapante.
Est-ce que ça commence forcément par des poussées et puis ensuite on va vers la progression ou il y a des gens qui peuvent être malades gravement, très très vite?
Il y a des formes extrêmement variables en gravité. C'est ce qui fait aussi la difficulté de cette maladie. Quand on dit à un patient qu'il a une sclérose en plaques, la question c'est finalement, est-ce qu'un jour je vais être en fauteuil roulant et dans combien de temps
je ne vais plus pouvoir marcher?
Et non, je ne peux pas répondre à l'échelle individuelle. Par contre, ce qu'on va savoir, c'est que 30% quand on ne fait rien, quand on n'utilise pas les traitements qu'on a aujourd'hui à notre disposition, 30% des patients effectivement vont avoir des difficultés à la marche telles qu'ils vont avoir besoin d'un fauteuil roulant, plus ou moins rapidement. Mais on sait également que 20% des patients, ce qu'on appelle des formes bénignes, c'est-à-dire vont faire une poussée de temps en temps, mais finalement vivre toute leur vie quasiment normalement avec cette maladie-là.
La sclérose en plaques, une maladie auto-immune, on en parle dans la chronique santé avec vous, le professeur Sandra Vukušić.